Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marketing Mania où je vais être rejoint par Rudy Koya qui est le fondateur d'un site qui s'appelle Superphysique qui est le plus gros site dans le domaine de la musculation. Et si vous avez suivi un petit peu le business en ligne, vous savez que tout ce qui est musculation, fitness, ça fait partie des plus grosses niches de business en ligne. Et les chiffres de trafic et puis de chiffre d'affaires qui sont réalisés par le business de Rudy le prouvent. On est dans les 30 000 visiteurs par jour et plus d'un million par an de chiffre d'affaires. Donc j'ai une conversation très intéressante avec Rudy. On parle de beaucoup de sujets, en particulier son modèle de coaching et pourquoi est-ce qu'il continue encore aujourd'hui à faire du coaching alors qu'il n'en a plus besoin. Et ceux qui ont suivi un petit peu mes différentes réflexions autour de ce sujet-là, je pense qu'il est intéressant quand vous débutez de faire du coaching. Et Rudy a développé un modèle totalement unique pour faire ce coaching-là et ça peut être quelque chose qui peut inspirer vos propres business. On parle aussi dans pas mal de détails l'idée de créer une communauté, de créer un mouvement, de créer quelque chose qui n'est pas juste un business qui est là pour faire des sous, mais aussi quelque chose qui peut vous apporter une satisfaction personnelle plus grande et qui peut fédérer une communauté. Et Rudy nous parlera de l'importance de vous entourer correctement et de lui, jusqu'où il a été pour s'entourer, parce qu'il a lui-même ouvert sa propre salle de sport de manière à pouvoir fédérer sa communauté autour de lui. Et puis finalement, on parlera de comment penser plus grand, comment être ambitieux, comment voir les choses sous un angle différent. Et Rudy nous parlera de ses différents projets, de ses différentes inspirations. Il travaille sur des choses qui sont assez impressionnantes. Et il faut dire que voilà, c'est quelqu'un qui bosse dans ce domaine depuis 11 ans. Il a une longévité que assez peu de gens que je connais ont eu sur Internet. C'est quelqu'un qui a commencé tôt, qui a posé les bonnes bases, qui a travaillé dur et qui aujourd'hui est dans une position de faire des choses vraiment très intrigantes. Et c'est peut-être un modèle pour beaucoup d'entre nous sur les prochaines années dans le développement qu'on pourrait avoir. Donc sur ce, je ne vais pas plus vous teaser, je vais vous laisser écouter ma conversation avec Rudy Koya de Superphysique. Salut Rudy, bienvenue sur le podcast.
Merci Stan de ton invitation que j'ai forcé un petit peu pour ce podcast.
C'est effectivement, on peut le dire, c'est toi qui m'avais contacté proactivement après avoir entendu l'émission. Il y a quelques temps quand même, ça fait plusieurs mois je pense qu'on a été en contact.
Oui, tout à fait. Bah, en fait, je t'ai découvert il y a quelques mois sur YouTube. Et à partir de là, en fait, j'ai dévoré tout ton contenu et notamment tes podcasts, parce que je suis assez friand de tout ce qui est podcast pour les écouter quand je fais mes petites marches quotidiennes pour avoir des idées. Et quand j'ai vu que tu interviewais pas mal d'entrepreneurs, je me suis proposé dans la liste des personnes que tu pouvais interviewer, parce que j'ai un parcours qui est un peu atypique si on regarde ce que font la majorité des gens aujourd'hui.
Donc parlons un peu de ce que tu fais, si tu peux résumer en quelques phrases tes activités actuelles pour que les gens puissent un peu se situer.
Alors ma première activité en fait, c'est d'être coach de musculation à distance. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait j'ai tout un système que j'ai créé en 2006 qui me permet de faire progresser les gens, permet d'atteindre leurs objectifs en musculation. Et à partir de là en fait j'ai développé énormément d'activités, dont la vente de guides pratiques, donc sous forme d'e-book, la vente de formations vidéo, toujours en musculation, la vente de DVD, la vente de suppléments, de vêtements. J'ai également ouvert ma propre salle de musculation en 2014. J'organise des compétitions depuis 3 ans aussi. Okay. En fait, je fais énormément d'activités et c'est assez dur pour moi de résumer en une phrase. Mais en gros, tout ce qu'on peut faire en musculation, ben, je le fais.
Et en gros, ton site principal, c'est Superphysique.
Voilà, donc Superphysique, c'est le site numéro 1 en France sur la thématique de la musculation sans dopage, c'est-à-dire sans produits dopants. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites de la musculation, vous connaissez un peu le milieu en fait, le milieu est gangréné par les personnes qui prennent des produits dopants et donnent donc des conseils qui ne sont pas applicables pour tous ceux qui n'en consomment pas. D'accord. Donc on est les premiers, on l'a créé en 2009, donc ça fait 8 ans qu'on l'a créé et c'est toujours le numéro 1 sur le sujet, sur la thématique, et ça m'étonnerait que ce soit délogé un jour.
Et tu dis toujours sur ton site, musculation 100% naturelle, etc. Est-ce qu'il existe des sites de musculation qui te disent voici comment faire de la musculation en prenant des stéroïdes ou autre, où personne ne le dit?
C'est assez secret en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'as pas consommer des produits dopants, c'est pas autorisé, c'est pas vraiment légal. Donc tu as beaucoup de personnes dans le milieu de la musculation qui vont dire qu'elles sont naturelles alors qu'elles le sont pas du tout. Et c'est là la force de Superphysique en fait. À la base, on a créé le site avec mon associé Fabrice pour pouvoir montrer aux gens ce qui était possible de faire à travers, en fait, on était une bande de copains, montrer ce qu'il était possible de faire naturellement, sans prendre de produits dopants, pour que les gens aient des objectifs atteignables, réalistes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que si tu débutes en musculation, par exemple, toi qui connais peut-être pas grand-chose en musculation, tu peux être extrêmement perdu par des personnes qui prennent des produits dopants, qui vont se dire naturels et qui vont donner des conseils, en fait, qui vont tout sauf te faire progresser. Mais ouais, il n'y a aucun site qui va dire « je prends des produits, voilà comment s'entraîner ».
Ce serait marrant, ce serait peut-être un positionnement. Moi, j'en ai rien à foutre, moi, regardez, chaque matin, prenez ça et ça et ça.
Il y a eu quelqu'un qui a fait ça aux États-Unis, Rich Piana. Je ne sais pas si tu as vu le documentaire Génération Iron 2.
Non.
Et dedans, il explique en fait ce qu'il prend. Il fait des vidéos en expliquant ce qu'il prend comme produit, etc. Il explique tout et puis forcément, il est mort, quoi. Il n'a pas tenu bien longtemps.
Okay.
Mais aux États-Unis, ça existe déjà. En France, on n'a pas encore vu. Et je pense que si quelqu'un le faisait, un Français, il ne faudrait pas qu'il habite en France.
Ouais. Pour des raisons de légalité, c'est ça, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure.
La plupart
de ces produits ne vont pas être légalement disponibles à la vente de toute manière.
Voilà, c'est des produits à la base qui sont interdits, qui sont disponibles en tant que médicament pour certains types de personnes, et donc tu ne peux pas te les procurer légalement. La plupart vont acheter sur des sites, si on est en France, ils vont acheter sur des sites d'Europe de l'Est, se faire livrer, se faire déguiser, ils peuvent même se faire attraper et aller en prison ou se faire interdire de faire des compétitions au fil des années. Donc ça fait 11 ans que je suis dans le milieu. On a vu plein de personnes en fait qui faisaient des compétitions et puis disparaître. Hein. Ils se sont fait prendre en recevant des produits et tout de suite, ça a changé la donne pour eux.
Et j'ai une question. Quand tu as commencé ton site et tu as annoncé, nous on va vous expliquer comment le faire naturellement et comment faire de la musculation naturelle. Qu'est-ce qui permet aux gens de savoir que tu es effectivement naturel? Ça se voit, tu as des preuves, tu fais des tests. Comment est-ce que tu démontres ça?
En fait, j'ai eu la chance, on peut dire, d'arriver au tout début d'Internet. Donc aujourd'hui, les gens le savent plus, notamment ceux qui arrivent sur Internet. Mais je suis arrivé sur Internet en 2001 et j'étais sur les deux premiers forums de musculation. Et ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc à l'époque, on mettait des photos une fois par an. Et chaque année, je montrais ma progression et puis on tenait ce qu'on appelle des training logs, c'est-à-dire nos cahiers d'entraînement. À chaque séance, on marquait ce qu'on faisait sur les forums. Et en fait, les gens, toute une génération, en fait, m'a vu progresser d'année en année. J'ai jamais explosé. Il n'y a jamais eu de bug. En fait, chaque année, je progressais un petit peu. Il n'y a jamais eu d'explosion. Donc, en fait, il y a toute une génération qui m'a vu progresser et qui voit que je suis naturel. Après, maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a des signes qui sont assez visibles. Alors, je ne sais pas si ça va parler à ton auditoire, mais par exemple, on dit qu'il y a 3 muscles qui vont réagir fortement aux anabolisants, qui, lorsqu'on est naturel, ne se développent pas très bien.
Okay.
Ça va être, par exemple, le haut des pectoraux, l'infra-épineux ou l'arrière d'épaule. Mais ça va être 3 muscles. On voit quand quelqu'un prend des produits, ces 3 muscles-là, d'un coup, explosent. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est des signes bien visibles.
Et du coup, tu te sers de ce... Intéressant, parce que du coup, tu as eu une raison, mettons, grâce à ces forums de cataloguer ou de chroniquer un petit peu ta progression, de la documenter, c'est le mot que je cherchais. Tu te sers de ces documents, tu fais des trucs, je ne sais pas, sur une page de vente, par exemple, on pourrait imaginer que tu puisses dire ça va vous prendre tant d'années pour le faire et voici les différentes photos. C'est un truc dont tu te sers, tu les ressors, ces vieilles photos?
Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai une de mes pages de vente où justement qui commence par comment je suis passé de 54 kilos à 108 kilos avec un de ces avant-après. Et c'est ma page de vente qui vend le mieux pour ma rubrique membre actuellement. Et donc, je montre ma progression, comment j'ai fait, j'explique tout. Et à la fin, je dis, je vais vous expliquer vraiment en détail comment j'ai fait. Rejoignez-moi, quoi.
Donc, en parlant justement de vente, si j'ai bien fait mes recherches, en gros, tu as 3 trucs différents que tu vends. Le coaching dont tu as parlé tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler des produits d'information, tout ce qui est les vidéos, les DVD, etc. Et puis des produits physiques en e-commerce du type des suppléments. Il me semble que sur ton site, il y a aussi des liens vers des machines d'exercice, ce genre de choses.
En fait, je développe de plus en plus tout ce qui est produits d'information. Comme toi, en fait, le coaching, ça fait 11 ans, comme je disais, que j'en fais. Donc, je sais un peu comment ça fonctionne, ce que les gens attendent, etc. En fait, je me répète énormément. Et à partir de là, en fait, j'ai pu créer des produits d'information donc qui sont bien moins chers que le coaching et qui permettent à tous ceux qui sont, disons, vraiment motivés et qui n'ont pas les moyens peut-être de travailler avec moi au jour le jour, d'obtenir les mêmes informations et puis de pouvoir les appliquer pour progresser à leur niveau. Donc, à partir de là, comme tu dis, j'ai mes guides pratiques, e-books, les formations vidéo, les DVD. Et là, j'ai ouvert, ça fait 6 mois maintenant, une rubrique membre, donc une rubrique à abonnement. Donc, je ne sais pas si tu l'as fait encore, je crois pas. Mais en ce moment, c'est pas mal à la mode, ces rubriques à abonnement, parce que ça sécurise en fait tes revenus.
C'est quoi
Et
l'abonnement
moi qui
mensuel chez
suis.
toi?
Alors, ça dépend par où tu passes. Il y a plusieurs tunnels,
Si tu nous donnais une
quelque sorte.
fourchette.
C'est entre 20 et 30 euros par mois. Et en fait, je joue énormément sur ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire développer une communauté, un noyau de personnes en fait sur lesquelles on peut compter. En fait, essayer de construire une famille autour des valeurs de vie que j'ai. Et ça marche plutôt bien parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux en fait à être dans cette thématique de vouloir faire du mieux qu'on peut, de penser à sa santé, de persévérer,
Tu peux nous
etc.
donner un ordre d'idée sur le nombre de personnes dans la communauté?
Non, parce que mes auditeurs vont écouter, mais en fait, ça monte régulièrement. Je peux te dire les chiffres. Au début, mon objectif, c'était d'avoir 150 personnes quand j'ai démarré, et aujourd'hui, on est à beaucoup
Ok.
plus. Et chaque semaine, on en gagne entre 3 et 5. Et habituellement, de ce que je sais des rubriques membres, on parle de 3% de désabonnement par mois, et je suis à moins de 1%.
Parce que 3% déjà, ça me semble faible, des abonnements. Je sais pas d'où vient ce chiffre, mais à part, c'est clair que 1% par mois, du coup, c'est une excellente rétention, sur une communauté de ce type.
Ouais, parce que moi j'essaye vraiment en fait de créer une communauté et je discute tous les jours, on organise des chats, quand je fais des vidéos, il y a beaucoup de vidéos qui sortent là-dessus, il y a un forum, etc. Donc je pense que c'est vraiment le cœur de mon activité aujourd'hui, ce qui me motive le plus. Et après, comme tu as dit, bah, je vends tout ce qui est supplément en tant que revendeur et j'ai quelques bannières publicitaires pour du matériel de musculation, puisqu'on peut pas être revendeur nous-mêmes. Il y a un revendeur en fait qui nous a demandé, moyennant finance, de l'exposer
D'accord.
sur Superphysique.
Et tu parlais tout à l'heure que Superphysique, c'est le site numéro un en termes en France sur le sujet. Tu peux nous donner une idée de quel trafic ça représente?
Alors, en moyenne, Superphysique, ça fait 20 000 vues par jour. Sachant qu'à l'époque, à la grande époque, quand on a lancé le site, 2-3 ans après, quand c'était vraiment le boom d'Internet, en 2012-2013, on était à pratiquement 30 000, qui a des pointes à 30 000. Et aujourd'hui, on se maintient autour de 20 000.
Qu'est-ce qui a changé? Plus de concurrence?
Bah, beaucoup plus. Aujourd'hui, tu as plusieurs sites de musculation qui ouvrent chaque jour sur Internet. Et puis, il y a l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le fait que les gens regardent énormément Internet avec leur téléphone, donc lisent beaucoup moins. À la base, Superphysique est un site d'articles écrits, même si on avait commencé les vidéos dès 2009. On était le premier site de musculation à avoir fait ça. Et aujourd'hui, je vois les jeunes, par exemple, ils sont tous sur le téléphone en train de regarder des vidéos. Et ils vont pas avoir le réflexe, l'automatisme, en fait, d'aller chercher l'ancien contenu. Et comme ils lisent plus, bah, Superphysique, forcément, a perdu un peu. Il reste que les personnes qui vont véritablement lire. Et en même temps, ceux qui lisent, j'ai envie de dire, c'est le public qui m'intéresse le plus. Parce que c'est ceux avec qui je vais pouvoir avancer, discuter, etc. Alors que ceux qui regardent des vidéos, ils sont plus dans une optique de consommation que d'apprentissage, de construction de relations.
Donc ça t'intéresse pas autant de développer une audience sur YouTube, pourtant il me semble que tu fais quand même des vidéos.
Ouais, mais j'ai du mal. J'ai du mal à me motiver.
D'un point de vue perso?
Ouais, d'un point de vue perso, parce que pour moi, YouTube actuellement, c'est vraiment, je vois du divertissement et de la vente de son image. Faut se mettre en avant, vendre un peu sa vie. J'ai vu ta récente vidéo sur Jack Paul, par exemple.
Ouais.
Bah c'est bien, hein, il a plein d'abonnés, etc. Il va réussir, etc. Mais pour moi, c'était pas constructif ce qu'il a fait à la base. Alors après, ça va le devenir. Mais pour moi, c'est le monde qui va à l'envers, en fait. Moi, je viens d'un monde, donc ma génération, 2000, 2001 sur Internet, jusqu'à 2010 et un peu
Quoi, t'es
plus.
né en quelle année?
Moi, je suis de 87.
Ok. Donc là, tu as 30 ans cette année, en fait.
Voilà. Et j'ai l'impression, peut-être que les anciennes générations disent ça de moi aussi, puis que les prochaines générations diront ça des autres. Mais j'ai l'impression que c'est pas mon monde, en fait. YouTube, on est quand même. Le contenu en tant que tel ne vaut presque plus rien s'il n'est pas accompagné, en fait, si tu ne montres pas ta vie, si tu ne vends pas du rêve, si tu ne fais pas du divertissement comme Jack Paul, du n'importe quoi pour moi. Donc en fait, j'ai du mal sur YouTube, parce que moi, je reste quelqu'un de passionné de musculation. Et comme je fais des vidéos sur le sujet, bah, j'essaye d'expliquer les choses, etc. Et forcément, c'est moins visible en quelque sorte, ça me donne moins de visibilité que si je montrais si je me montrais limite en train d'être sur les toilettes, quoi.
Tu sais que j'avais la même idée que toi et au final, j'ai pas mal changé mon fusil d'épaule. Il me semble que la plateforme de YouTube, les attentes de l'audience et puis aussi les questions d'algorithme ont pas mal changé et commencent à favoriser un contenu différent. Enfin, moi, je vais prendre ma chaîne comme exemple, mais moi, j'ai attendu très longtemps avant de faire une chaîne YouTube sur le marketing parce que je pensais que, tu vois, que ça allait pas avoir sa place dans le sens où on n'était pas sûr du contenu particulièrement divertissant ou autre. Et c'est en fait voir certaines chaînes, en particulier des chaînes américaines comme la chaîne Nerdwriter, qui faisaient des analyses de films, des trucs assez poussés. Je me dis, putain, mais qui regarde ça? Et le mec avait plus d'un million d'abonnés sur des trucs vachement, vachement poussés, enfin, des trucs que j'aurais considéré assez geek dans leur approche, tu vois, pas intéressant, mais pas du divertissement, et ça marchait bien. Et du coup, aujourd'hui, YouTube, voilà, il y a la place pour différents types de contenus, en fait. Est-ce que tu as entendu parler d'une chaîne américaine, par exemple, qui s'appelle Athlean X? C'est Jeff Cavalier. Bah, je t'enverrai le lien parce que c'est assez intéressant. C'est un gars qui fait à peu près ce que tu dis. Il fait des vidéos. Alors, tu verras ce que tu en penses parce que moi, je ne suis pas qualifié, si tu veux, pour juger de la qualité de l'information que lui transmet. Mais il a, en gros, il a adopté cette. C'est de la pure info. Hein. Tu ne le verras jamais faire un vlog. Toutes ses vidéos se trouvent dans sa salle de muscu. Alors, je ne sais pas s'il a sa salle, mais en tout cas, il est vachement bien équipé dans son studio. Et il va te démontrer différents exercices. Il va essayer de contrecarrer certains mythes. Tu vois, ils sont très, très bons, en particulier sur les miniatures et sur les titres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des miniatures assez marquantes quand tu les vois dans ton flux. Donc, ils sont très bons sur la partie YouTube Game. Et derrière, ils vont faire des vidéos assez techniques, en tout cas, moi, selon mon point de vue extérieur, mais assez pointues sur voilà, les différents exercices, etc. Et donc, ouais, il y a peut-être la place pour différents trucs. Après, si on en revient, du coup, parce que là, je m'écarte un petit peu à ton site, tu fais encore aujourd'hui du coaching?
Ouais, toujours, bah toujours un peu avec plaisir. Alors maintenant, ce qui se différencie par rapport à mes débuts, c'est que je sélectionne en fait tous mes élèves. Donc, c'est-à-dire que demain tu peux m'écrire et me dire j'aimerais que tu me coaches nanana, et je vais te dire bon bah remplis-moi un questionnaire. Donc j'ai un questionnaire type et en fonction de ça, bah je vais te dire oui ou non quoi. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Alors qu'à l'époque j'étais plus dans une optique vraiment, il fallait énormément d'élèves, il fallait vraiment que ça marche à fond. Donc je pouvais bosser jusqu'à 10 heures par jour. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai, en fait, j'en suis arrivé, comment on peut dire, au privilège de pouvoir vraiment choisir avec qui je travaille. Donc là, c'est vraiment du coaching plaisir pour moi.
Parce que du coup, d'un point de vue purement financier, est-ce que ça a encore du sens pour toi de faire du coaching, ou est-ce que c'est un truc que tu gardes parce que soit pour le plaisir, soit j'imagine qu'il y a un sens où tu permets de garder aussi le contact avec les gens, où tu peux mieux comprendre leurs besoins?
Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, j'ai pratiquement arrêté. J'avais encore quelques dizaines d'élèves, mais. Et en fait, comme tu dis, bah, j'ai perdu un peu le contact avec la réalité. J'arrivais plus à voir ce que voulaient les gens, ce qu'ils attendaient, par exemple, pour YouTube ou pour les articles. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, il faut que je reprenne un peu plus d'élèves, que je travaille un peu plus là-dessus, parce que justement, ça me donne énormément d'idées pour tout le reste. Donc, après, pécuniairement, financièrement, bah, ça reste toujours très rentable, même si ça oblige. Je pense que c'est à ça que tu penses, à une certaine régularité tous les jours. En fait, tous les jours, j'ai des élèves qui vont m'écrire, qui vont m'envoyer leur programme pour que je le corrige, pour que je leur dise quoi faire. Donc, c'est sûr que ça fait du travail régulier. On est loin de,
Du revenu
comment on peut
passif.
dire, du travail qui, voilà, du revenu passif. Mais ça me permet de créer ensuite mon revenu passif, en
Ouais, parce que
fait.
ça donne des infos. Mais là où c'est peut-être intéressant pour les gens de creuser, c'est que les gens se disent, OK, tu fais du coaching en musculation, tu es dans une salle de sport toute la journée, tu accompagnes des gens, etc. Toi, c'est pas ton cas.
Pas du tout, ouais.
Donc à quoi ressemble le programme de coaching que tu proposes? Mettons, si aujourd'hui tu as quelqu'un va s'inscrire avec toi, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce que tu lui donnes?
Bah, en fait, au début, donc questionnaire, photo, etc. Et moi, en fait, à partir de là, je vais établir un programme personnalisé d'entraînement et d'alimentation. Donc, je suis un des pionniers, par exemple, sur ce qu'on appelle l'analyse morpho-anatomique, c'est-à-dire que je vais analyser ton physique d'un point de vue osseux, d'un point de vue musculaire. Et à partir de là, je vais personnaliser à fond ton programme, que ce soit le choix des exercices, la répartition sur la semaine, en fonction de tes disponibilités, de ce que tu peux faire, ton matériel, etc. Et donc, première semaine, par exemple le lundi, je vais t'envoyer ton programme et ta diète. Et là, on aura sur mon site, donc j'ai créé en fait une sorte d'interface où on va pouvoir s'échanger des fichiers et pouvoir discuter en fait. Une interface un peu discussion comme sur Facebook, comme le Messenger. Et chaque semaine, si tu es mon élève Stan, tu vas devoir m'envoyer ton résumé d'entraînement avec les charges que tu as mis, les difficultés pour chaque exercice, me filmer des exercices. Si je t'ai demandé par exemple, j'aime bien au moins faire le tour de chaque exercice que je t'ai préconisé pour voir si techniquement ça va. Et si ça va pas, bah, je te fais refilmer tant que ce soit bon. Moi après derrière, j'ai filmé tous les exercices, donc si ça va pas, je peux t'envoyer la vidéo, te dire bah, voilà comment il faut que tu le fasses, regarde par ici par là. Et donc en fait chaque semaine, tu vas recevoir ton programme, en plus des échanges, vu que tu peux m'écrire n'importe quand sur l'interface discussion, où je réponds bah, tous les jours. Et tu recevras un programme en fait avec tes objectifs, tout ce que tu dois faire, mais absolument tout, pour que je sois sûr en fait que tu progresses. Et c'est ce que je garantis en fait, c'est que si tu pars dans l'optique de vraiment bien communiquer avec moi, tu réponds à mes questions, tu joues le jeu, bah, je suis sûr de te faire progresser et de t'amener à te transformer. Après, en combien de temps et jusqu'à quel niveau, bah, ça c'est la question un peu sans réponse, parce que ça dépend un peu de chacun. Quel est le potentiel de chacun, jusqu'où on peut aller, ça c'est vraiment individuel. Mais dans tous les cas, voilà, je vais te forcer en fait à communiquer avec moi. Et chaque semaine, je vais te forcer ta progression.
Donc, et en continu, tu vas gérer combien de... Tu es capable de coacher combien de personnes ?
Et ben, à ma grande époque, là où vraiment ça a explosé, c'est-à-dire en 2011, j'avais plus de 300 élèves.
En même temps ? En parallèle ?
Ouais.
Ce qui veut dire que tu bossais que là-dessus tout le temps,
ouais,
c'est ça ? Parce
bah
que j'imagine que 300 personnes personnalisées.
Bah, ouais, en fait, bah, 2011, ce qui s'est passé... c'est que j'avais pas encore de guide pratique à vendre, j'avais pas de produit informatif en fait à vendre. Superphysique n'avait pas encore de boutique de suppléments, j'avais pas encore ma salle à Annecy, et en fait je ne vivais que du coaching. Et à un moment ça a explosé en fait, je sais pas comment ça s'est passé, mais d'un coup ça fait boom, et tous les jours j'avais des demandes. Et donc en fait bah, je bossais de 8h à 23h tous les jours. Donc je prenais juste une petite pause pour aller m'entraîner. Et ouais, c'est un travail monstre, hein. C'était 30 à 40 programmes par jour, plus les réponses aux questions, etc. Et surtout qu'à l'époque, j'étais beaucoup moins organisé, j'avais pas encore mon interface sur mon site, tout était par email. Donc j'avais des filtres partout, c'était monstrueux, c'était un truc à 300-400 mails par jour. Hein.
Et t'as fait ça pendant combien de temps ? Combien de temps t'as pu tenir ce rythme ? Ou au bout de combien de temps tu t'es dit c'est trop et il faut que je trouve une autre façon de m'organiser ?
Bah, j'ai tenu un peu plus d'un an. À l'époque, j'étais avec une fille, bah, forcément, ça a foiré, quoi. Vu que la priorité, c'était de développer mon entreprise, j'étais vraiment dans cette course. Fallait que ça marche. Et puis, en plus, plus j'avais d'élèves, plus j'avais d'avant-après à mettre en avant, plus j'avais de témoignages, plus, en quelque sorte, j'essayais ma légitimité, ma crédibilité. Donc, ouais, j'ai tenu un an et demi. Et après, j'ai commencé vraiment à revoir toute mon organisation pour être beaucoup plus libre.
Et aujourd'hui, tu te sens libre par rapport au business, ou est-ce que tu as encore du progrès à faire dans ce domaine-là ?
Ah, j'ai encore pas mal de progrès parce que, en fait, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, j'ai toujours un truc qui va arriver qui me dit ah, tiens, ça, on peut améliorer ci, ça, on peut améliorer ça. Tu vois, en ce moment, je bosse beaucoup sur le club Superphysique, donc qui est un autre de mes sites, où on organise des compétitions.
Et ça, c'est l'espace membre dont tu m'as parlé tout à l'heure, ou c'est encore un truc différent ?
Non, c'est encore un autre site.
Ok. Parce que c'est vrai qu'en faisant la compilation avant l'épisode, des domaines qui sont associés à toi, donc tu as le domaine à ton nom, tu as le super physique, tu as le club super physique, tu as tout un paquet que tu as lancé au fil des années.
Ouais, en fait, on a créé une sorte d'écosystème avec mes associés. Donc j'ai plusieurs associés suivant le projet. Et on a vraiment créé un écosystème. Donc tu as rudikoya.com pour tout ce qui est coaching, produits informatifs. T'as superphysique.org qui est pour la vente de suppléments et tout ce qui est contenu vraiment d'articles gratuits. Il y a des milliers d'articles avec tous les exercices en vidéo, enfin plein de trucs. Ensuite, tu as supermince.org. Donc c'est un site qui était destiné aux femmes qu'on n'a pas trop développé. Le concept, c'est apprenez à maigrir en 30 minutes.
30 minutes par jour ou 30 minutes tout court ?
30 minutes tout court.
Ah, donc
on t'explique 30 okay. minutes chrono en lecture, tout ce que tu dois savoir pour maigrir et bien choisir tes aliments, etc. Donc ça. Ensuite, il y a eu Club Superphysique, où là, en fait, on fait passer des diplômes, à l'instar des ceintures dans les arts martiaux, aux personnes en musculation. Donc, tu vas être, par exemple, niveau bronze en faisant telle et telle performance, niveau silver, niveau gold, etc. Et sur ce site, on organise des compétitions. Donc, aujourd'hui, je suis énormément là-dessus, parce que j'ai véritablement l'ambition de développer la plus grosse compétition de musculation, si on peut dire, bah, encore une fois, réservée aux pratiquants naturels. Et j'investis énormément de temps, d'énergie, d'argent là-dedans. J'avais fait une petite newsletter récente en disant que j'en étais à plus de 20 000 euros de dépensés. Pour l'instant, bah, zéro gain.
Du coup, si tu dis pour l'instant zéro gain, quelle est l'ambition pour toi? Quel est l'intérêt pour toi de passer ton temps sur ce projet-là?
Bah, en fait, cette année, j'ai mis en place ce qu'on appelle des licences. Donc, en fait, à l'instar des fédérations sportives, j'ai mis en place un droit de participation aux compétitions qu'on organise. Donc, il y a 5 compétitions dans l'année auxquelles tu peux participer, soit dans les salles partenaires Superphysique, donc on a une dizaine de salles partenaires dans toute la France, ou soit directement sur Internet en postant ta vidéo sur clubsuperphysique.org. Et donc, mon ambition là-dessus, c'est là, cette année, bah, c'est la première année où j'ai lancé les licences. Donc, il y a quelques personnes, forcément des haters qui n'étaient pas contents, mais la plupart des gens qui participaient l'année dernière, en fait, gratuitement, ont répondu présente. Et mon but, bah, c'est progressivement de transformer ça véritablement en une énorme fédération. Tu vois, mon exemple là-dessus, en fait, c'est les CrossFit Games.
Ok.
Je sais pas si tu connais un peu le CrossFit, voir comment ça s'est développé.
Je vois à quoi ressemble le CrossFit, mais je connais pas bien leur histoire. Donc, si tu peux.
Alors, le business plan du CrossFit, en fait, à la base, c'est un mec qui a créé une sorte de méthode d'entraînement, d'agencement. Et en fait, à partir de là, il a commencé à vendre des certifications, donc comme des diplômes, en fait, pour expliquer sa méthode, pour la rendre accessible à d'autres entraîneurs. Donc, cette formation, bah, il la vendait forcément moins cher qu'actuellement. Actuellement, ça coûte 1 000 $ pour 2 jours, si tu réussis.
Et donc, tu deviens coach de CrossFit, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Tu deviens level one, dans le milieu, on dit level one.
Et après, tu sais quoi, comment tu montes des niveaux tu...
Après, tu as plusieurs certifications jusqu'au level 4, par exemple en certification. Mais lui, ce n'est pas son seul business model. Donc, il a vendu la compétence et ensuite, comme il avait enregistré le nom CrossFit, donc c'est très américain ça, les salles qui voulaient s'appeler CrossFit et qui voulaient dispenser le CrossFit doivent payer une licence chaque année.
Ce qu'il a, la trademark en fait.
Voilà, donc tu dois payer, à l'époque, quand je m'y renseignais, c'était... 3 000 $ par an. Donc tu devais passer 1 000 $ au moins pour enseigner, pour dire que tu étais coach de CrossFit, plus 3 000 $. Et à partir de là, il a commencé à organiser des compétitions également payantes. Donc la plus connue, c'est les CrossFit Games, mais notamment toute la phase open. Donc j'ai plus les tarifs en tête, mais par exemple, donc, tu es coach, tu dois payer 1 000 $. L'adhérent, donc, tu payes, si tu ouvres une salle CrossFit, tu payes 3 000 $ en plus. L'adhérent de CrossFit paye environ 3 à 4 fois le prix d'une salle de musculation en France, sachant que c'est autour de 80 à 100 euros par mois le CrossFit contre 20 à 30 euros une salle de musculation classique par mois, parce que c'est un encadrement, c'est un coaching, enfin bon, ça se justifie largement. Et à partir de là, les personnes qui veulent participer aux compétitions, et c'est le cas de la plupart de ceux qui pratiquent du CrossFit, vont encore payer des droits d'inscription aux différentes compétitions, dont la plus populaire, et l'inscription ça doit être autour de 50 à 100 $. Donc en fait, lui, c'est son business model. Et aujourd'hui, si tu regardes les CrossFit Games, je ne sais pas si tu as Netflix, mais tu peux voir les compétitions, il y a plusieurs résumés, gros documentaires dessus. C'est énorme, hein, ça génère des millions et des millions de dollars.
Donc là, j'ai tapé rapidement CrossFit revenu sur Internet. Le premier article, c'est Forbes qui dit comment CrossFit est devenu une marque à 4 milliards de dollars.
Voilà, et en fait, mon modèle là-dessus, c'est les CrossFit Games. C'est pour ça que moi, j'ai organisé en fait la compétition qui s'appelle les Super Physique Games à partir de 2016. Mais mon modèle est un peu différent, tout en sachant en fait que je ne souhaite pas faire payer les salles partenaires qui encouragent Super Physique à évoluer, qui vont afficher tu vois, les différents tableaux de performance pour les différents diplômes à passer, qui vont organiser les compétitions. Et donc mon but, moi, c'est plutôt mon business model en quelque sorte, c'est de faire payer une somme assez modique en comparaison des CrossFit Games pour l'instant, un droit de compétition. Donc cette année, c'est 20 euros. Et mon but, c'est chaque année, grâce à la professionnalisation qu'on met en place, tu vois, cette année, grâce à l'argent qui a été mis, même si j'en mets encore un peu, on va financer 6 documentaires, donc 5 petits et un gros sur l'événement. J'ai acheté un micro également pour animer les compétitions. On a un arbitre qui vient à chaque fois, qui est un de mes élèves depuis un petit moment, qui s'occupe de toute la gestion de l'organisation. On a acheté ce qu'on appelle un gros mur en fait de pub. Je ne sais pas si tu vois, un peu comme si tu regardes le foot ou n'importe quel sport, souvent les gens sont interviewés devant des gros murs de sponsors.
Ouais.
J'ai acheté ça avec les sponsors. Pour l'instant, les sponsors, c'est plutôt moi, Superphysique, Superphysique Games. Pareil, j'ai un graphiste qui est à temps plein là-dessus, donc qui va animer le site avec des graphismes, etc. Et on va surtout mettre en place, ce qu'on n'avait pas l'année dernière, c'est des récompenses. Tu vois, l'année dernière, c'était la deuxième année, c'était encore bonne franquette, on peut dire, super sympa, etc. Et là, cette année, on met vraiment un coup de boost pour professionnaliser le truc. Tu vois, l'année dernière, j'avais produit un documentaire que je vends à 9,90 €, un documentaire d'un peu plus d'une heure sur tout l'événement. Et cette année, ce documentaire, grâce aux licences, on va le fournir gratuitement. Et mon but, c'est progressivement que chaque salle partenaire joue le jeu en licenciant ses adhérents. Moi, en échange, je reverserai évidemment une partie aux salles partenaires parce qu'elles jouent le jeu et elles nous aident. Donc comme ça, on est gagnant-gagnant. Comme ça, à mon avis, ça va les motiver. Et puis, de grossir, grossir comme ça, jusqu'à peut-être remplir un petit stade. Peut-être pas comme CrossFit, mais... Et je pense que ça a du potentiel parce que beaucoup de personnes en musculation s'entraînent en fait au bout d'un moment sans objectif. Tu vois, tu arrives bien physiquement.
Et
Et
la
puis tu te dis...
compète, c'est qui peut soulever le plus de poids? C'est du powerlifting?
Non, c'est différent. En fait, j'ai créé vraiment une compétition un peu sur mesure pour les pratiquants de musculation lambda, on peut dire. Donc ça va être en fait des efforts en série moyenne. Donc série moyenne, ça va être entre 10 et 30 répétitions. Même si 30 répétitions, ça peut être considéré comme long. Mais c'est fait exprès en fait pour réduire les risques de blessures. Et ça va être sur 5 exercices. Donc le développé couché, les tractions, le squat avant, donc avec la barre tenue devant, le rowing planche, qui est un exercice que j'ai vraiment remis sur le devant de la scène, mais qui était déjà vraiment beaucoup utilisé par les avironneurs, les kayakistes, et les dips. Et là, suivant ta catégorie de poids de corps, donc maintenant il y a plusieurs catégories. La première année, il n'y avait qu'une seule catégorie. La deuxième année, il y avait deux catégories. Là, il y en a trois chez les hommes et une seule catégorie femmes. Eh bien, tu dois faire un maximum de répétitions à une charge donnée. Donc, pour ceux qui pratiquent un peu en musculation, je vais donner des idées, des ordres d'idées. Si on prend le développé couché, combien tu pèses, Stan?
75 kilos.
Ben voilà, tu serais. Allez, on dit que tu fais 74,9. Et donc là, la compétition, tu dois faire un maximum de répétitions au développé couché à 70 kilos.
Ok.
Donc ça, c'est pour les qualifications. Et après, pour la finale, bah, c'est évidemment plus lourd. Ce sera 85 kilos pour ta catégorie.
Ok.
Mais donc, mon but, ouais, c'est vraiment d'organiser un gros truc. Vraiment, toujours dans cet état d'esprit avec ma rubrique. Donc ma rubrique, si t'as pas vu, c'est méthodesp.rudicoya.com. C'est vraiment de développer, de fédérer des gens pour essayer de montrer l'exemple. J'ai vraiment à cœur en fait de ce truc-là, puisque j'ai été berné des centaines de fois par des mecs dopés, des mecs qui donnaient des mauvais conseils. Je me suis blessé plein de fois à cause de tout ça. C'est vraiment de lutter contre ça ensemble, quoi.
Ok. Ah, c'est vraiment intéressant, j'avais pas compris l'ampleur de ce truc, tu vois. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que tu fais du business en ligne, en tout cas comme moi, tu vois, j'ai toujours fait du business en ligne, etc. Tu as cette espèce de biais où tout doit se faire en ligne, tu n'imagines même pas vraiment faire un événement physique. Et c'est intéressant de voir que tu as fait levier sur le site web, etc., pour monter cet événement-là. Plus ce que tu avais mentionné rapidement tout à l'heure, tu possèdes une salle à Annecy, c'est ça?
Ouais, bah en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est quand. Et c'est exactement ça. En fait, j'ai commencé sur Internet et je me suis rendu compte à partir d'un moment qu'Internet, c'était bien, mais que j'avais besoin de plus de contacts humains. J'avais besoin de voir plus de gens qui avaient les mêmes valeurs que moi. Parce que même si on est sur Internet et qu'on discute, etc., ça remplacera jamais le fait d'aller prendre un café avec quelqu'un, d'aller s'entraîner avec quelqu'un, de partager une séance, de faire une activité. Ça remplacera jamais tout ça. Et je me suis dit, comme Superphysique était très gros, tu vois, on fait entre 20 et 30 000 visites par jour, je savais qu'il y avait des gens, tu vois, je marchais dans la rue, des fois des gens me reconnaissaient, disaient, ah Rudy, Superphysique, c'est super, etc. Et je me suis dit, bah tiens, moi il me manque quelque chose, pourquoi on n'ouvrirait pas une salle exprès pour les gens qui suivent Superphysique et qui veulent justement profiter, qui ont les mêmes valeurs que moi en fait, mais qui sont également seuls dans leur coin pour mieux progresser ensemble. Et donc en 2014, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert la première salle Superphysique. Peut-être pas la dernière, ça dépend de l'avenir. Mais en tout cas, je ne ferai pas payer une licence comme CrossFit chaque année. Ce n'est pas du tout mon objectif pour l'instant. Et je ne pense pas qu'en France, ça passerait. Mais ouais, j'ai voulu créer ça. Et tu vois, cette année, là, 2017, ben là, on a déménagé la salle parce que j'ai acheté un local. Donc pour te dire, ça marche bien. Les gens viennent, sont contents, participent justement aux compétitions, etc. Et là, j'ai pu acheter un local exprès pour la salle. Ben, ça fait 3 mois. Et donc là, on est mieux que jamais. Mais c'est vrai que avec Internet, j'ai l'impression en tout cas, et c'est pas que le manque que je ressens, mais que beaucoup de personnes aussi recherchent plus ce contact humain aujourd'hui, où tout se déshumanise un peu, quoi. Tu vois, je lisais la biographie récemment de Jeff Bezos, de Richard Brent, mais qui se finit un peu en 2012. Et j'ai l'impression que tout se déshumanise. Hein. Vraiment, tu sais, tu peux tout faire sur Internet en restant chez toi, etc. Et j'ai un peu peur que ça devienne un peu comme le film Robot, je sais plus, je crois que c'est avec Bruce Willis,
ouais.
Où les gens, en fait, ne sortent plus du tout de chez eux, contrôlent un robot à distance ou un truc, et en fait, on soit coupé du monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, c'est avant tout un être social. On a besoin de voir des gens, on a besoin de discuter, on a besoin d'être bien entouré. Donc, ouais, j'ai vraiment commencé par le net pour... Là, je continue actuellement, bah, encore une fois sur le net, mais avec des rapports plus humains grâce à ma rubrique membre et encore plus humains avec l'organisation de compétition.
C'est un truc, je pense que tu n'es pas le seul à constater. Moi, je pense que l'anecdote que je peux raconter là-dessus, c'est pourquoi je suis au Vietnam. Quoi. J'habite au Vietnam et les gens parfois ont l'impression que j'habite au Vietnam et je suis un peu tout seul dans mon coin, etc. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. L'origine et la raison qui m'a attiré ici, c'était justement parce que je savais qu'il y avait une communauté d'entrepreneurs web qui était florissante, de gens qui organisent des événements toutes les semaines. Il y a plusieurs événements auxquels tu peux aller. Et du coup, là où en France, effectivement, je connaissais un peu de monde, mais j'étais un peu isolé. Enfin, quand j'ai débuté à faire mon site, je n'avais pas l'accès que je peux avoir aujourd'hui à différentes personnes. Et donc, du coup, j'étais un peu tout seul dans mon délire. Je n'avais personne qui partageait un peu mes idées. Personne avec qui parler du dernier autorépondeur ou à parler d'un problème que tu pouvais avoir avec ton site ou ton marketing ou tes clients. Et moi, j'ai trouvé cette communauté-là justement, principalement en Asie du Sud-Est. Donc, c'était pour moi Ho Chi Minh, Chiang Mai, etc. Et en fait, tu te retrouves avec cette communauté de gens qui vivent entièrement sur Internet. Tu vas avoir beaucoup de gens qui font du e-commerce, du Amazon FBA, qui vont être consultants, etc., qui sont des gens qui vivent entièrement sur le web et qui vont placer une grande importance sur le fait de pouvoir avoir cette communauté physique en personne. Et la semaine prochaine, on a une grande conférence annuelle à Bangkok. Et c'est intéressant de voir qu'à mesure qu'on bosse de plus en plus sur Internet, et en fait, ça devient d'autant plus important. Pourquoi ? Parce que tu es dans un bureau, tu fais un travail classique, tu as tes collègues autour de toi, tu as au moins des gens qui partager un peu la même expérience versus quand tu es sur Internet ou quand j'imagine que tu fais de la muscu, si ta famille ne s'intéresse pas à la muscu, si tes amis ne s'intéressent pas à la muscu, rapidement, tu as l'impression de creuser un trou.
De pédaler dans la semoule. Ouais,
je me souviens très bien de cette expérience-là quand j'ai commencé à bosser sur mon business. Tu vois. C'est un truc que tu pouvais en parler à personne puisque personne ne comprenait de quoi tu parles. Aujourd'hui,
Ouais, donc là, t'as été chercher ton entourage, quoi.
Et puis j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir me déplacer pour le trouver et pouvoir. C'était par des podcasts, moi, que j'avais entendu parler de ces mecs-là. J'avais entendu parler qu'ils étaient dans tels endroits, Bali, à Chiang Mai, et de pouvoir aller les voir. Et au final, je pense pas en être arrivé là où je suis aujourd'hui si j'avais pas eu ce soutien-là. Je sais pas exactement comment ça se régoupillait, et pourtant, j'étais pas. Tu vois, je faisais pas partie de ces gens qui étaient. J'étais pas ultra social, quoi. Et pourtant, j'avais besoin d'avoir des personnes autour de moi.
Non, mais je pense en plus que le rapport humain derrière un ordinateur ou en vrai n'est pas du tout le même. Derrière un ordinateur, tout le monde s'invente une certaine notoriété, une certaine prestance, des revenus. On peut tout s'inventer derrière un ordinateur. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Mais dans la vraie vie, quand tu rencontres des gens comme toi, là, comme tu as fait, tu as été chercher des entrepreneurs au Vietnam, quoi, qui étaient dans le même truc que toi. Bah là, tu parles directement avec eux, c'est réel, quoi. C'est la vraie vie, quoi. Et là, tu peux avoir des vraies discussions sans avoir peur d'être jugé, sans entendre des critiques à la con, des trucs. Là, chacun se rend compte qu'il est humain et chacun respecte les autres, en fait. Et j'ai l'impression que ça aide énormément. Un de mes facteurs de réussite, c'est d'avoir été bien entouré, personnellement, dès le départ, quoi. Dès le début, j'étais super bien entouré. Et comme tu dis, je faisais de la musculation, mais je suis arrivé au moment où il y avait les premiers forums sur Internet. Et en fait, même si tous mes potes, quand j'étais au lycée, s'en foutaient de la musculation, ou bien étaient contents de voir que j'étais un peu plus balèze, quoi, grâce au forum internet, tous les jours, je discutais avec des passionnés, en fait. Et c'était la bonne époque, parce que justement, il y avait très peu de personnes, et c'était comme le réel d'aujourd'hui, en fait, qui n'existe plus, malheureusement, sur internet, où tout le monde est le plus beau, le plus fort, le plus riche, derrière son ordinateur.
Ou alors, j'imagine qu'il faut trouver une communauté particulière, ou... qui a été menée de manière à maintenir des valeurs ou qui est suffisamment petite pour pouvoir maintenir cette cohérence du début, en fait.
Ouais, mais ça, il faut créer un noyau dur. Tu dois connaître la règle des 5. les 5 personnes qui comptent le plus. Moi, je suis vraiment très adepte de cette notion de tribu. C'est comme ça que j'appelle les membres de ma rubrique. J'avais lu un livre qui s'appelle « Manager votre tribu », qui est un de mes livres préférés. Et à partir de là, je me suis dit… Bah,
tu veux l'auteur ?
Ouais, bah, je l'ai sous la main parce qu'il est toujours sorti. Donc, « Manager votre tribu », en anglais, c'est « Tribal Leadership ». Et donc, c'est de Dave Logan, John King et Hayley Fisher. Et donc, c'est un excellent livre qui explique un peu comment fonctionnent les tribus, comment créer une tribu, comment ça fonctionne, etc. Et comme tu dis très justement, une tribu, ça ne peut pas être énorme, mais c'est centré autour justement de valeurs et d'une cause noble. Et nous, bah, les valeurs, on a eu de la chance ou pas, et c'est là qu'on voit que c'est marrant quand même la vie, c'est que les valeurs qui nous rassemblent, en fait, c'est quelque chose qu'on a créé en 2009 avec un copain sur un lit. On revenait de la plage, on était là en train de réfléchir à Superphysique, et on a écrit les 10 commandements. On a écrit des 10 commandements, et maintenant, et on donne des posters aux gens des 10 commandements Superphysique, et progressivement, après, on a trouvé notre cause noble, en fait, qui était de montrer l'exemple, d'aider toutes les personnes naturelles en musculation, quoi. Et une tribu, ça fonctionne que comme ça.
Et les 10 commandements, il reste un document important aujourd'hui ?
Ouais, ouais, bah, c'est quelque chose qui est souvent repris, donc par les personnes qui se reconnaissent un peu dans Superphysique, dans ce qu'on fait. Et puis même par d'autres personnes qui tombent dessus, qui disent « Ah bah tiens, c'est bien, c'est marrant quoi. » Mais ouais, ouais, c'était la base du site en 2009 et ça reste toujours les valeurs fondamentales qui peuvent s'appliquer en plus. Bon, c'est orienté muscu, mais ça peut s'appliquer, tu vois, un peu à tous les domaines de la vie. Si, là, je l'ai sous les yeux parce que c'est affiché chez moi. Le signe numéro 6, par exemple, c'est « Dans l'adversité, tu ne renonceras. » Donc ça vaut pour tous les domaines. Si tu veux réussir, il ne faut jamais que tu abandonnes quoi. Tu continues et à un moment, ça vient quoi.
C'est intéressant parce que bah moi, cette idée de communauté, c'est un truc qui me travaille de plus en plus. Grosso modo, là, le site, la chaîne YouTube en particulier, a commencé à atteindre une certaine échelle où je me dis, tiens, je pourrais faire plus pour organiser les gens au sein d'une communauté. Donc toi, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui est dans ma situation pour fédérer une communauté, il y en a deux que tu as déjà évoqués. Le premier, c'est l'idée d'avoir un système de valeurs, ce qui est appelé chez toi les 10 commandements. La seconde idée que tu as mentionnée, c'est d'avoir une cause noble, donc un objectif que les gens ont envie de défendre face au monde extérieur ou un truc qu'ils ont envie d'accomplir. Quels autres éléments, toi, te semblent importants à mettre en place ou à quoi quelqu'un devrait réfléchir pour accomplir ça?
Bah là, si tu veux fédérer des gens, je te dirais, il faut que tu aies un espace où ces gens peuvent échanger avec toi. Là, c'est toi, depuis que j'ai ouvert ma rubrique membre, donc en avril 2017, bah, plus que jamais, je vois bien que la tribu grossit, qu'on est vraiment une vraie communauté. Parce qu'avant ça, avant l'organisation de ma rubrique, j'avais l'impression, ouais, il y avait une communauté, mais c'était la communauté de tout le monde, en fait. Et ils pouvaient échanger avec moi un jour, échanger avec moi un autre jour, puis un coup avec quelqu'un d'autre. Puis tu vois, ils te mettaient une réponse, par exemple, sur YouTube, sous une vidéo, tu répondais, puis tu n'avais plus de réponse. Donc le premier truc, en fait, ce que je ferais, c'est de créer voilà, une sorte de communauté. Et c'est pour ça que quand j'ai ouvert mon espace, je me suis dit, bah, c'est bien, ça va être je vais mettre des vidéos tous les 2-3 jours. Donc il y a 3 vidéos par semaine. Mais surtout, en fait, je vais créer un forum où je vais pouvoir échanger avec les gens tous les jours et où ils vont pouvoir échanger ensemble. Toi, en plus, qui es à distance au Vietnam, des trucs très simples, hein, c'est d'organiser. Moi, j'organise pas mal de chats, pareil. Donc, c'est compris bah, dans l'abonnement chaque mois de ma rubrique.
Quelle forme ?
Et bah, en fait, on va très simplement sur Discord, donc, qui est un équivalent à Skype, a priori, qui avait été créé pour les fans de
pour les gamers.
Voilà, pour les gamers. Vidéo, ouais. Et on se met dessus. Et puis, toutes les 2-3 semaines, on organise un chat. Et puis, on vient et puis on discute pendant 2, 3, 4 heures. Donc, je compte pas mon temps parce que ça me fait super plaisir. Et on discute, ouais. Et les gens discutent entre eux. Après, je pars, au bout d'un moment, je pars, et puis ils discutent entre eux, etc. Et en fait, ça rend la communauté vraiment réelle, quoi. Et c'est ton espace, en fait. C'est pas l'espace YouTube, c'est pas l'espace Facebook, c'est ton espace. Et je pense que ça se créerait facilement avec ta newsletter. Aujourd'hui, de dire, bah voilà, aujourd'hui, j'organise un chat, on peut discuter de tout et de rien, parce que je pense que beaucoup de ta communauté n'est pas au Vietnam, donc ça va être dur de les rencontrer. Ouais. Mais.
Quoique, il y en a. Mais ouais. C'est étonnant. Il y en a, ouais, y en a plusieurs.
Ouais, j'ai écouté la dernière fois Antoine que tu avais déjà interviewé. Et lui, il organise souvent des rencontres abonnées, par exemple.
Alors, moi, j'ai copié son idée, Antoine, des rencontres abonnées sous forme de dîner. Quand j'étais en France, j'ai fait ça. Je vais pouvoir le créditer parce que c'était son idée d'organiser des rencontres. En fait, le truc, c'est que tu fais une rencontre abonnée. Si tu as 150 personnes qui se pointent, tu vois, tu rencontres 150 personnes pour la première fois, c'est un peu intimidant. Et donc, du coup, j'avais fait des dîners et j'ai fait une dizaine de dîners avec à chaque fois 6 personnes. Et ça fonctionne vachement bien. pour le coup, tu vois. Pour revenir sur l'idée que tu avais mentionnée de la rencontre physique, j'ai profité d'être en France pour faire ça. Et je faisais voilà, plusieurs dîners chaque semaine. Et ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et pour le coup, tu peux vraiment discuter avec les gens et créer un truc, tu vois. Mais le problème
Ouais, et puis
de mon dîner.
maintenant, ce qui te manque, c'est que les gens entre eux discutent en fait,
Ouais, c'est ça.
pour que la communauté ne soit pas que toi. Parce que aujourd'hui, moi, j'ai du mal avec ça. C'est pour ça que sur YouTube, on en parlait. Moi, j'ai du mal à me mettre en avant. C'est pas du tout mon état d'esprit aujourd'hui. Quand j'étais gamin, quand j'avais 20 ans, me mettre torse nu, faire des poses, des perfs, j'étais content. Mais aujourd'hui, à 30 ans, c'est pour moi, c'est plus ça. Mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ouais, il y a Rudy, mais le but en haut, en fait, c'est super physique, c'est le logo, c'est le rassemblement, c'est la marque. C'est les valeurs. Et je veux que les gens puissent discuter entre eux, en fait, qu'ils organisent entre eux des discussions, des chats, qui se répondent, qui communiquent. Et c'est là que tu vois que ça devient réel. C'est quand les gens communiquent entre eux. Là, sur mon espace, quoi, sur mes espaces. Mais là, ça devient vraiment réel, quoi. Donc là, les repas, c'est la première opportunité. Donc les gens ont commencé à prendre contact, etc. Et après, tu sais pas, l'étape suivante, c'est peut-être organiser des repas à 12 personnes, puis à 24 personnes, puis à 50 personnes, et puis à la fin, t'organises en même temps une conférence, un truc, tu vois,
Ouais, je
ça peut
vois.
être énorme. Moi, je vois par exemple les gros marketeurs comme Franck Nicolas, qui organisent des énormes conférences à la Tony Robbins. Bah, eux, après, ils proposent, donc tu as la conférence, ils te proposent même de manger avec eux après, quoi. Et là, tu vois donc des gens qui sont exactement dans le même état d'esprit que toi, quoi. Tu vois,
Yes.
les mecs qui viennent voir Franck Nicolas, ils sont tous pareils, quoi. Donc à un moment, bah, ils sympathisent, ils avancent ensemble, etc. Et là, pour moi, c'est vraiment. Mais là, l'idée, c'était bien, hein, par 6. Après, il faut juste que. Si c'est ton but de rencontrer de fédérer de plus en plus, de créer ta communauté, il faut que les gens discutent entre eux. Et donc, je te dirais, crée ton espace.
Et puis j'imagine avoir aussi un sens de continuité, tu vois. Moi j'ai eu des dîners où il y avait une super dynamique, etc. Mais si tu n'as pas de système qui est en place pour fédérer cette dynamique, la conversation se poursuit pas. Tu vois. Enfin, les gens pouvaient se répondre dans le flux email, mais ça reste assez limité, surtout qu'aujourd'hui tout le monde reçoit beaucoup d'emails. Et tu peux être hésitant à faire répondre à tous sur une chaîne d'emails. Enfin,
Ouais,
c'est
c'est compliqué
OK,
ça.
je prends note de ça. Si tu donnais un conseil sur le nombre de personnes qu'il faudrait avoir dans une communauté pour démarrer, quel serait le chiffre que toi tu aurais en tête? Si je te dis faut que j'ai combien de personnes en jour 1, quel chiffre te saute à l'esprit?
Bah moi je dirais 10. Tu vois, j'ai lu le dernier livre de Tim Ferriss, Tool of Titans, et à un
Ouais.
moment il parle, si on a une idée, d'essayer d'en parler à 10 personnes, donc je sais plus qui l'a interviewé là-dessus. J'ai fait un podcast sur le sujet il y a un petit moment. Mais voilà, tu parles de ton idée à 10 personnes. Et si les 10 personnes sont un peu enthousiastes par rapport à ton truc, bah tu l'as déjà, en fait, tu as des 10 premières personnes. Et si tu peux convaincre, c'est pas vraiment convaincre, mais si tu peux avancer déjà avec ces 10 personnes, bah c'est sûr que ces 10 personnes-là, si elles ont ces valeurs, elles portent le projet, etc., bah il y en aura 20, il y en aura 30, il y en aura 40. Après, ça se multiplie, en fait. Le plus compliqué, si on peut dire, c'est de convaincre. C'est de transmettre ton flux, si on peut dire, à d'autres personnes, quoi. Et une fois que tu as réussi, bah en fait, après, c'est illimité, quoi. Surtout si tu es cohérent dans ce que tu fais. Si tu te perds pas, si tu as toujours ta ligne de conduite, tu sais bien ce qui te définit, etc. Tu es honnête. Aujourd'hui, je pense que c'est hyper important d'être honnête, quoi. Surtout avec Internet où tout se voit. Dès que tu fais un truc de travers, bah hop, ça peut être affiché, quoi. Donc, faut vraiment que tu sois honnête. Et là. Après ça, ouais, 10 personnes, je te dirais, 10 personnes, et après, ta communauté peut se faire. Bah, tu connais bien la règle aussi des 1000 vrais fans, hein, je pense, de Kevin Kelly, quoi. Mais je pense que si tu commences à 10, les 1000, tu vas les avoir, hein, il suffit juste de continuer.
Donc, mes vrais fans, on va juste expliquer ce que c'est au cas où les gens l'ont pas entendu parler. C'est un concept de Kevin Kelly qui te dit si tu es un créateur, un artiste, un entrepreneur et que tu veux pouvoir vivre de ton art, ce qu'il te faut, c'est 1000 vrais fans. Et un vrai fan, c'est quelqu'un qui achète tout ce que tu produis et te dit si 1000 vrais fans dépensent chaque année 100 dollars avec toi, voilà, tu peux vivre, quoi. En gros, c'est des gens qui te suivraient partout. Et je pense que l'idée de base de l'article, c'est de dire c'est pas autant que tu le penserais. T'imagines un musicien, tu te dis, OK, il faut être Taylor Swift, il faut être partout, sur toutes les radios, etc. Toi, tu lui dis, non, en fait, c'est seulement le chiffre de 1000. Donc là, c'est un concept assez puissant.
Ouais, et puis même 1000, c'est beaucoup, hein. Même si t'avais que 100 personnes, il suffit que, je sais pas ce que tu vends comme produit, etc. Mais si tu, je reprends ton exemple, je prends ton exemple, Stan, mais si tu vends des formations, par exemple, pour apprendre aux gens à vivre de leur passion, etc., sur Internet, etc., c'est pas des petites formations, donc c'est des choses qui vont se vendre cher. Donc même si t'as que 30 personnes, eh ben c'est bon, tu vois, t'y es. Maintenant, si tu vends des petits trucs, moi j'ai pris j'ai pris le parti de vendre des trucs pas chers en musculation parce que c'est un loisir et que je vois pas les gens dépenser des centaines d'euros là-dedans. Bah là, il m'en faut un peu plus. Mais ouais, en fait, il n'en faut pas tant que ça. Même si tu n'avais que 100 personnes, 100 personnes sur un produit moyen, après, il suffit juste de sortir régulièrement des produits. Ces 100 personnes-là, en fait, elles ont confiance en toi. Et à chaque produit que tu sors, elles savent que c'est un bon produit, que ça va les aider, et puis elles te refont de la pub, etc. Donc en fait, c'est un peu exponentiel, quoi.
Yes. Très, très intéressant. Un élément que j'avais noté, avec lequel je voulais commencer, et étrangement, on n'est pas arrivé dessus, c'est que j'ai été voir des interviews avec toi qui étaient anciennes, il y a quelques années encore, et où tu parlais un petit peu de ta vision des trucs, et où tu étais en mode... tu avais l'air totalement focalisé sur le business, et tu disais, ouais, moi ça m'intéresse pas de sortir et d'aller au restaurant et de bouffer de la merde. Est-ce que tu es un peu toujours dans cette mentalité?
Non, mais ça, cette interview, c'est une des premières que j'ai fait sur Superphysique. Je crois qu'on l'avait fait même avant l'ouverture de Superphysique, peut-être en 2008. J'étais pas trop dans une bonne période quand je l'avais faite, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, je sais pas si c'est la mode aujourd'hui ou pas, mais qui oublient que pour réussir dans un domaine, à un moment, va falloir travailler pour de vrai. Et en musculation, travailler pour de vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire t'entraîner, avoir une bonne hygiène de vie, donc dormir pas trop tard, te lever de bonne heure, avoir tes heures de sommeil, suivre ton alimentation, etc. Pour faire que chaque séance compte, que tu sois à fond. Et si on prend mon exemple pareil dans le business, il y a un moment, j'ai travaillé 10-12 heures par jour pour que ça marche. J'ai dû travailler à fond, j'ai dû y aller mettre le paquet, quoi.
Et est-ce que tu penses que l'expérience de l'avoir fait en muscu, c'est traduite dans le business?
Oui, aujourd'hui, si je dois me résumer en une phrase ce que je fais, ce que je dis la plupart du temps, j'aide les gens à changer de vie en fait. Par la musculation, je te permets de comprendre que par tes efforts, tu as du pouvoir sur la transformation de ton physique et sur la transformation de ta vie tout simplement. Parce que si avec tes efforts, tu peux changer de physique, avec tes efforts, tu peux changer de vie en fait. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est...
Moi, j'y crois énormément, ça. Et je parlais tout à l'heure d'ailleurs de ma communauté d'entrepreneurs en Asie, etc. Tu débarques dans une conférence de ces mecs-là et ils sont tous en super forme, quoi. Tu vois, parce que tu vois directement que les gens font du sport au moins 3 fois par semaine, mais probablement plus. Et tu te dis, ok, ça n'a rien à voir. Tu vois, le mec, il est sur son ordi toute la journée. En quoi ça l'aide de faire du sport? Et en fait, ça l'aide parce que le lien entre les deux, c'est la mentalité, je pense.
Ouais, ça te donne confiance en toi aussi. Ouais. Ça te montre que tu peux, quoi. Parce que sinon, dans ce monde, à chaque fois, on te dit tu ne peux pas. Tu vois bien, dès que tu as un projet, non, tu ne peux pas y arriver. Non, c'est impossible. Non, ceci, non, cela. J'en parlais récemment avec quelqu'un, justement. J'ai regardé ma génération Iron 2, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ai l'impression que le monde a vraiment changé. Les gens ne rêvent plus, en fait. Ils ont l'impression que tout. Ce qui est très loin, en fait, est inaccessible. Je vais prendre l'exemple que j'ai donné. Moi, je vois Steve Jobs, je lis la biographie de Steve Jobs, et je me dis qu'une chose, c'est je vais faire comme Steve Jobs. Et la plupart des gens, ce qu'ils vont se dire aujourd'hui, ils vont lire la biographie de Steve Jobs, ils vont dire c'est bien, mais c'est impossible, quoi.
Ou alors, ils vont trouver une raison pour laquelle Steve Jobs, de toute manière, c'était un connard, il traitait mal ses employés, donc de toute façon, pour réussir, il faut être une mauvaise personne, donc... ça justifie le fait de ne rien faire.
Voilà, ils vont pas se dire putain, le truc qu'il a fait, le mec, c'est incroyable et tout. Ils vont se dire ah, c'est trop loin, c'est impossible. Tu vois, c'est comme moi, il regarde mon physique, il dit ah bah non, moi c'est impossible. Il dit si j'arrive déjà à la moitié, c'est bien. Non, mais moi je vois Steve Jobs, je vois le mec, oh, je vois Jeff Bezos d'Amazon. Non, mais moi je vais faire pareil. j'ai même pas cette barrière qui me dit non, c'est impossible. En fait, pourquoi ce serait impossible? En fait, c'est que du travail, des idées, être bien entouré et du temps.
Ça, tu l'as toujours eu cette mentalité ou tu l'as apprise?
J'ai vite compris, même quand j'étais gamin et adolescent, que fallait que je compte sur moi-même. Et j'ai eu la chance en fait d'être assez doué en musculation, en fait pour la force, pas pour trop pour le développement physique, mais pour la force. Et j'ai vite compris que si je m'énervais, que je travaillais, que j'avais la volonté, en fait, ça venait quoi. Tu vois, à 16 ans, j'ai fait le record de France du développé couché. En moins de 82,5 quoi.
Tous les âges ou c'était non, c'est par poids
en cadet, ouais, cadet, moins de 82,5 kilos. Okay. J'avais fait 110 et là je me suis dit je me suis entraîné pendant 2 ans, j'ai fait mes trucs et puis ça fonctionne. Et après, en fait, j'ai développé Ouais, cette sorte de confiance progressivement. Après, je me suis bien développé et tout s'est fait petit à petit, quoi, en fait. Vraiment, et à chaque projet que je lançais, bah, au bout d'un moment, ça fonctionnait. Donc, je me suis dit, pourquoi ça marcherait pas? Et là, ouais, là, maintenant, j'ai une biographie, en fait, j'arrive à m'identifier. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'identifier, en fait. Tu sais, ils vont lire une bio, ils vont dire, ah, bah, c'est bien, c'est intéressant. Bah, mais donc, qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas pour moi. Ok, c'est pas pour toi. Mais tu te trompes, hein, mais comme tu veux.
Je pense que tu mets le doigt sur un truc vraiment intéressant qui est une feedback loop, en fait, une boucle de récompense. Tu fais un effort, tu reçois une récompense, tu apprends que tes efforts sont récompensés. Et en fait, c'est un truc qui se transmet dans différents domaines. Et si les gens n'ont jamais eu cette expérience-là, ils peuvent pas nécessairement, tu vois, se projeter dedans. Versus, tu peux l'avoir dans un domaine comme le sport. Et elle va se transmettre très bien dans un autre domaine comme le business qui, sur la surface, n'ont rien à voir à faire. Mais ton cerveau a intégré. Mais je pense qu'il y a vraiment un système de circuit dans ton cerveau où tu vas associer un process d'effort avec un résultat. Et en psychologie, c'est ce qu'ils appellent, tu sais, le growth mindset, la mentalité de croissance versus la mentalité fixe. Et ils font pas mal d'études comme ça en disant, tiens, il y a des gens, et en particulier des gamins, qui ont l'idée que OK, les choses d'une certaine manière, il y a des gens qui se disent, tiens, je vais travailler pour progresser. C'est une orientation, en fait, qu'ils découvrent à la fois dans leur approche par rapport aux devoirs, par rapport au sport, de dire, tiens, je ne suis pas bon, ça veut dire qu'il faut que je travaille pour progresser. Et ils découvrent vraiment que, voilà, il y a deux orientations, quoi. Et tu peux, a priori, l'apprendre. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que ça m'est venu naturellement. Tu vois. J'ai plus l'impression d'avoir été pendant longtemps quelqu'un où, si j'étais pas talentueux dans un truc, et je voulais pas le faire. C'est pour ça que je n'ai pas fait de sport jusqu'à assez tard, jusqu'à avoir 20 ans, etc. Parce que j'étais pas bon. Et encore aujourd'hui, je suis pas très bon. Mais tu vois, j'y vois une autre valeur, quoi.
Ouais, mais c'est pas très important que tu sois pas bon. En fait, je pense qu'on a un truc de, je sais pas ce que c'est, mais notre éducation ou ce qu'on voit quand on était gamin à la télé, tout ça, quoi. Mais en fait, qu'on soit bon ou pas bon, ça ne change rien avec le plaisir qu'on peut éprouver dans une activité. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est mauvais quelque part, du moins on est mauvais par rapport à qui, hein, ça se discute encore. Bah, pourquoi ça pourrait pas être quelque chose qui nous plaît, quelque chose de bien? Souvent, t'es mauvais, tu te dis ah ben non, je suis mauvais, et puis tu dis ah, je le fais pas, nanana. Mais parce que t'as peur des conventions, t'as peur de paraître point nul.
Il y a une question d'ego aussi, je pense, où voilà, t'as envie d'être le meilleur, et si t'es pas le meilleur, t'arrives pas à l'accepter, quoi. Je pense que c'est aussi un problème que moi j'ai pu avoir ou que certaines personnes peuvent avoir, c'est-à-dire que t'as pas nécessairement la patience ou t'as pas nécessairement la. Enfin, moi, c'est bizarre, tu vois. Moi, je vais en salle et tout, hein, je fais des trucs, je vois les mecs à côté, et c'est vraiment un check sur ton ego, parce que dans mon petit domaine, tu vois, je suis assez respecté, etc. Mais je vais en salle de sport. Je suis un nulard, tu vois, c'est intéressant. Et du coup, tu es vraiment confronté à ton truc et tu te dis, ah ouais, tu vois,
Ouais, mais t'es pas vraiment nul en fait, parce que tu veux te comparer, mais t'es pas comparable en fait. Quelle que soit l'activité, tu es différent. Donc, tu vois, en musculation, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis un peu spécialiste en analyse morpho-anatomique. Et tu vois, si je te faisais ton analyse, je dirais voilà pourquoi t'es fait, voilà pourquoi t'es pas fait. Là, tu vas être bon, là, tu vas pas être bon, point. Et on comparait un mec avec qui tu te compares, et je te dirais voilà, regarde les différences, je ferais son analyse, et tu dirais ah ouais, putain, mais en fait, on fait pas du tout le même geste. Regarde, je prends le développé couché. Toi, j'ai vu bah, que tu étais un peu longiligne, quoi, tu as des longs bras. Si tu prends un mec qui a des tout petits bras en longueur et puis une grosse cage, il fait développé couché, mais c'est évident qu'il va mettre plus que toi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que toi. Ça veut juste dire que bah, il fait tant avec X kilos, quoi. Il fait pas du tout le même mouvement. Donc en fait, c'est incomparable. Et même dans les autres domaines, tu vois, en fonction de ton éducation, je sais pas, si on parle de lire, par exemple. Toi, il y a des gens, ils vont lire vite, d'autres, ils vont lire doucement. Et tu te dis pas, ah, je lis doucement, c'est mal, j'aime pas, j'arrête, quoi. Si t'aimes lire. Y a pas tout ça. En fait, je pense que, comme tu dis, c'est l'ego. Mais moi, c'est quelque chose qui m'est passé
Et
aujourd'hui. Et.
la comparaison, effectivement, comme tu le dis. Mais moi, vraiment, ça m'aide. Hein. Ça m'aide d'un point de vue psychologique, parce que moi, tu vois, j'ai tendance à me comparer facilement aux gens. Je pense que j'ai passé des heures et des heures de ma vie à checker les analytics YouTube des autres chaînes, tu vois, pour voir si c'est plus vite que moi. Enfin, moi, c'est un truc, tu vois, c'est une tendance naturelle, etc., que j'apprends au fil du temps à contrecarrer, parce que je pense qu'elle est nocive. Je pense vraiment
Bah
que
oui,
c'est un des
parce que tu
trucs les
vois,
plus nocifs pour ton bonheur dans la vie, quoi. Tu pourrais jamais apprécier faire du sport. Si tu te comparais toujours, parce qu'il y aura toujours un mec qui est plus fort que toi, qui gagne plus d'argent que toi, et qui est plus beau que toi, et voilà. Donc, c'est un truc à finir.
Il y a toujours
quoi.
Meilleur. Tu vois, Mike Tyson, dans sa biographie, il dit une très bonne phrase, et je la cite souvent. Il dit, donc il était au top du top, le mec. Il était invincible, quoi, limite. Et il dit, je ne suis meilleur que personne, et personne n'est meilleur que moi. J'essaye juste de survivre. Donc la fin est un peu dramatique, mais c'est ça, quoi. En fait, tu es toi. Quand les mecs veulent lancer des business dans le podcast que j'anime sur le sujet, je leur dis, le but, c'est pas d'être meilleur que les autres, c'est juste de faire sa propre différence, en fait. D'être la différence. Faites votre truc avec vos forces, vos faiblesses, et forcément qu'il y aura du monde à copier les autres, tu vois. Si tu voulais copier le développé couché d'un mec qui n'est pas du tout fait comme toi, tu peux pas, quoi. Tu vas te casser les dents, quoi. Donc, là, dans la vie, c'est pareil, quoi. Tu peux... Mais bon, moi aussi, quand j'étais gamin, je me comparais beaucoup, mais c'est vrai que... Et là, je vois, bah, justement, avec les Super Physique Games que j'organise, tu verrais la liste des mecs qui sont qualifiés pour la finale, tu nous mets sur une ligne, il n'y en a pas un qui se ressemble, quoi. Alors ouais, on est tous musclés, mais il n'y en a pas un qui est pareil, quoi. T'as des mecs très, très, avec des jambes très courtes, d'autres avec des jambes très longues, d'autres qui sont très larges, d'autres qui sont étroits. Donc en fait, c'est une compétition plus pour montrer l'exemple, une compétition ensemble, qu'une compétition les uns contre les autres, en fait. Et je pense que dans le business, c'est un peu pareil. Tu vois, là, tu me disais, t'es conférent, qu'à la conférence que vous allez avoir à Bangkok avec les autres entrepreneurs, mais vous n'êtes pas concurrent, en fait.
Non.
Vous êtes partenaire pour mieux évoluer,
ouais,
quoi.
Et puis surtout dans ces trucs-là, tu vois, c'est un truc qui est intéressant en Asie, c'est que, putain, t'as fait la démarche de traverser la moitié du monde pour venir là. Tu vois, les gens directement ont un truc où ils te font confiance, ils te donnent des conseils. Il y a un filtre, quoi. Il y a une barrière à l'entrée qui est telle qu'une fois que t'es là, tu fais partie du groupe, quoi. T'as payé ton entrée dans un système de valeurs et d'une vision commune.
Ouais, ouais, non, mais je pense que... Mais après, ouais, se comparer, pour moi, c'est une des plus grosses erreurs aujourd'hui. Même moi, je le fais des fois et tout, ça me retombe et tout. Mais quand tu fais ça, comme tu dis, t'es malheureux après, parce que tu vois des trucs, tu dis, mais attends, je comprends pas, nanana, pourtant je fais. Mais en fait, parce que c'est complètement différent ce que tu fais. Ça n'a rien à voir avec personne.
Écoute, c'est vraiment une bonne note de fin. Donc, je voudrais enclencher rapidement sur mes trois petites questions. C'est toujours trois petites questions que je pose à la fin de chaque interview. La première, c'est quel est un livre que tu recommandes souvent?
Bah, celui-là que j'ai cité tout à l'heure, donc Manager votre tribu, Tribal Leadership en anglais. Et sinon, il y en a un deuxième, vu que j'ai déjà cité, c'est la biographie de Steve Jobs. Pour moi, c'est la meilleure biographie.
C'est de Isaacson?
Exactement.
Ok. Qui s'appelle, il me semble, ouais, Steve Jobs, de Walter Isaacson.
Ouais, ouais. Et franchement, celle-là, quand je l'ai lue, moi qui n'étais pas du tout Apple à l'époque, etc., rien que pour Steve Jobs, bah, je lui ai acheté un iPhone, quoi. Je me suis dit, bah, allez, je vais l'encourager parce que le mec mérite, en fait. Je me suis dit, le mec, j'ai compris. Tu vois, j'entendais tous les on-dit, tous les trucs, etc. Et je me disais, ah non, il mérite pas, c'est un connard, nanana. Et je lis le truc, en fait. Bah, je dis, bravo, en fait, félicitations. Donc, je vais t'encourager parce que ça mérite. Et puis, bah, depuis, je suis iPhone, quoi. Même s'il est mort, pour continuer d'entretenir le truc. J'essaye de contribuer à ma mesure, on peut dire.
Deuxième question, si tu devais donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais d'être moins attaquer les gens en fait, qui ne sont pas d'accord. quand j'étais gamin, en fait, j'étais assez... surtout quand j'avais 20 ans, si je m'engueulais avec quelqu'un ou quelqu'un n'était pas d'accord, etc., ah, je pouvais vraiment taper fort, quoi. Taper fort. Pas physiquement, mais verbalement. Et c'est ce qui fait que sur Internet, surtout quand j'avais entre 20 et 25, les mecs savaient que si un truc me plaisait pas, je pouvais faire un coup de gueule. Ça pouvait gueuler, quoi. Donc je me dirais, calme-toi, dis rien, fais ton truc. C'est mieux, quoi. Même si ça a contribué un peu à me faire connaître à l'époque. Hein, je me dirais, arrête.
Et pourquoi est-ce que tu as décidé de changer de comportement là-dessus?
Bah parce que je me suis rendu compte en fait que ça servait à rien, et même pire, c'est que ça allait à l'inverse, parce que des gens qui tombaient sur ce que je faisais et qui voyaient ça, bah, ils disaient non, mais on peut pas travailler avec lui. Et puis ils disaient, bah, ça c'est pas professionnel. Tu vois, j'ai fait pas mal de vidéos un peu polémiques, tu vois. Des fois, je tombais sur des mecs qui font des vidéos YouTube et qui racontent mais n'importe quoi en musculation. Mais pour le savoir, faut être du milieu, faut faire de l'anatomie, enfin bon, faut être un peu spécialiste, quoi. Et je faisais des vidéos en expliquant. Et en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Et tu vois, j'avais beaucoup de gens qui venaient, j'avais de plus en plus de haters, en fait, en faisant ça. Et personne n'a envie d'avoir des haters, surtout une tonne, personne n'a envie d'être critiqué. tout le monde a envie d'être un peu encouragé, d'être reconnu, quoi. Donc à un moment, je me suis dit, bon, est-ce que ça a un intérêt particulier à part me défouler ? Et maintenant, j'ai un autre système que j'utilise de moins en moins, mais j'utilise. En fait, je fais le truc, mais je publie pas. Ouais. Donc ça peut être, par exemple, j'écris.
Tu fais la réponse et tu la gardes pour toi, quoi.
Voilà, en fait, et ça me détend, quoi. Tu sais, je lance tout, ouais. Je balance tout, j'écris un texte, tu vois, là j'en ai un que j'avais écrit, je sais pas, il y a 2 semaines, un truc qui m'énervait, j'écris, puis après je me dis, bah, ça sert à rien que je le mette, en fait, ça changera rien. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça ne changera absolument rien. Que je gueule ou pas, ça changera rien, en fait. Mieux vaut que je me concentre sur ce que moi je peux faire pour faire avancer les choses, plutôt que je perde du temps et que ça se perde du temps aux gens, et puis que j'ai pas envie, en fait, de rentrer dans ce jeu de la polémique, du divertissement, quoi. Pour moi, j'ai passé... Je suis au-dessus de ça en quelque sorte aujourd'hui. Donc j'ai pas eu envie de perdre du temps, quoi. C'est pour ça, même sur YouTube, j'essaye de faire mes petits trucs. Et puis ça fonctionne, donc ça va.
Troisième et dernière question. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ?
Ouais, c'est une phrase que j'arrête pas de dire, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à apprendre. Je pense qu'elle va apprendre. Elle aura pas le choix, parce que je force tout le monde à l'adopter. C'est seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et donc à chaque fois que je vois un mec et tout, je voulais même le faire dans ma salle, parce qu'on a des graphes dans ma salle. J'ai mis des graphes au mur et je voulais même la faire tailler sur les murs. Et à chaque fois que je vois un mec et tout, quand j'organise une compétition et qu'un mec de la salle vient pas, je lui répète bien la phrase, quoi. Je lui dis c'est ensemble, hein. Donc tu vas pas avoir le choix, quoi. Ouais. Donc mais c'est ma phrase, ouais. C'est vraiment la phrase. C'est vraiment ça. Après j'ai une autre phrase, un petit slogan que j'utilise en ce moment beaucoup. J'ai même fait des vêtements là-dessus, c'est « become a leader », dans le sens « deviens responsable de toi-même, deviens responsable de tes actes pour voilà, bah, agir en connaissance de cause et être responsable de ton bonheur. » Parce que je pense encore une fois que le bonheur, c'est quelque chose qui se décide et qui n'arrive pas du ciel.
Cool. Merci Rudy pour d'être venu dans le podcast. C'était super intéressant d'avoir un peu de lumière sur ton parcours. Bah, juste avant de terminer, est-ce que tu peux nous redonner les liens pour les gens qui veulent aller voir ton site, enfin tes différents sites justement ?
Ouais, bah le plus simple pour me trouver, c'est methodesp.rudycoya.com. Donc là, j'y suis tous les jours, je communique à fond. Sinon, après, bah, le deuxième truc le plus simple, c'est directement de venir sur mon site perso, rudycoya.com. Là, il y a un bouton contact, donc vous pouvez m'écrire directement si vous voulez discuter. Puis après, bah, j'anime. En fait, je suis partout, donc c'est un peu dur. Je suis sur YouTube, sur Insta, sur Facebook. Je suis même en podcast. J'ai 2 podcasts. Donc, mais si vous allez sur ces 2 sites-là, vous allez voir tout ce que je fais. Et normalement, on pourra discuter ensemble.
Super. Merci Rudy.
Merci Stan encore de l'invitation. Et puis j'espère que ça vous plaira.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous en aurez tiré autant que moi. J'ai beaucoup apprécié cette conversation avec Rudy. Pour terminer, quelques petites notes, bon, vous commencez à être habitué. Premièrement, si vous avez aimé cet épisode, vous savez que je suis sur une nouvelle version, une nouvelle itération de mon modèle de podcast, quelque chose qui va plus poursuivre mes intérêts personnels et ceux de l'invité, plutôt que suivre un modèle d'interview rigide où je demande aux gens « Explique-moi comment tu as monté ton business ?» Parce que c'est des interviews qu'on a un peu vues et revues, et au final, je suis un peu lassé de ces interviews, et j'imagine que c'est entre vous aussi. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce nouveau modèle d'interview. Et pour ça, évidemment, moi, la manière que je préfère, c'est que vous me laissiez une évaluation sur iTunes, de préférence 5 étoiles, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Si vous n'avez pas iTunes, vous pouvez le laisser sur la plateforme de podcast de votre choix, ou tout simplement me contacter via le Messenger de Marketing Mania. Donc vous allez sur Facebook, vous tapez Marketing Mania et vous envoyez un message à la page Marketing Mania. Vous pouvez envoyer un tweet @marketingstan, ou vous pouvez m'envoyer un email à stan@marketingmania.fr. Je vais être très curieux cette semaine et puis dans les semaines à venir de vos retours sur le podcast. Si vous aimez ce format, c'est quelque chose qui sera pris en compte. Donc je vous encourage à le faire, à me passer un petit coucou et puis à m'encourager à continuer, à me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que je devrais faire, me donner éventuellement votre avis subjectif, personnel, parce que c'est un petit peu comme ça que je vais juger du succès ou de l'échec de ce retour du podcast. Et puis pour terminer, je voudrais mentionner ma formation gratuite, parce qu'avec Rudy, on a parlé de comment créer une communauté, de comment créer un site avec des gens qui vous suivent. La pierre d'angle de cette idée-là, c'est quand même de trouver le bon positionnement, de créer le bon contenu. Et pour ça, j'ai créé une petite formation gratuite par email qui dure 7 jours, qui s'appelle « Comment créer une audience qui achète » et qui résume un petit peu mes différentes philosophies sur comment développer ces audiences, comment vous différencier, y compris dans un marché compétitif, comme ça a été le cas pour Rudy. Donc le lien, si ça vous intéresse, c'est marketingmania.fr/audience. C'est une formation qui est gratuite, mais qui débouche sur une de mes formations payantes qui s'appelle le déclic. Sachant que vous pouvez très bien vous contenter de la partie gratuite et je pense que vous en tirez beaucoup de choses qui vous seront utiles si vous faites du contenu, si vous faites un blog, un podcast, une chaîne YouTube et si vous désirez monter une audience pour vendre du coaching ou des formations ou du service. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine et puis on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing Mania.